Europe 1. On de la traconte, code B, la suite de votre épisode.
Je m'attendais à voir une certaine posture, voire une certaine stature. Et d'emblée, lorsque je l'ai rencontré, je me suis aperçu que son apparence, elle dénotait très clairement avec les faits qui lui étaient reprochés.
Docteur Laurent Laillé, expert psychiatre.
Parce que donc Monsieur Valentin Marcon, au moment où je le vois, il est âgé de 29 ans, il est plutôt de petit gabarit, il porte des lunettes à gros foyer, ça lui donne un style assez particulier. Et la voix est fluette et l'attitude est très empruntée. Et il va s'exprimer avec moi sans aucune réticence. Mais ce que je vais relever, c'est que le ton va être extrêmement neutre, monocorde, et surtout marqué par des difficultés à exprimer ses émotions. La seule élément que je pourrais relever, c'est lorsque je vais évoquer un peu plus tard dans l'expertise sa famille, ça sera un moment un peu d'effondrement et il va adopter une toute autre posture puisqu'il va avoir les larmes aux yeux. Et ça sera le seul moment de l'examen. Et d'emblée, avant même que je lui pose une quelconque question, il va aborder spontanément donc les faits qui lui sont reprochés. Et il va m'expliquer, donc force de détail, que le 11 mai 2021, il s'est présenté, donc comme d'habitude, ce sont ses termes, à son poste, donc à la scierie Tessonnière, sur la commune des Plantiers, alors qu'il avait passé une mauvaise nuit. Et il me dira, il y avait des orages, j'avais pas dormi. Mais je relèverai plus tard dans l'expertise qu'en fait, il n'avait pas dormi pour de toute autre raison, puisque je m'apercevrai qu'en fait, ça faisait plusieurs nuits, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il guettait la nuit sur son canapé armé de son fusil, comme si un danger allait arriver. Donc après cette nuit qu'il qualifie dans un premier temps de difficile, il va se lever à 7 heures du matin, il prend ses affaires et il va... Et c'est son rituel, assez nouveau mais un rituel quand même, enfiler son gilet pare-balles puisqu'il en porte un depuis 6 mois et prendre une arme dont il s'était muni depuis près de 4 mois et qu'il portait en permanence sur lui. Lorsque je l'invite à me donner des précisions sur pourquoi cet arsenal, il va revenir très très longuement et c'est là un élément clé de l'expertise sur le contexte d'insécurité qu'il vivait. Et il va faire remonter ce contexte d'insécurité à 3 ans auparavant, alors qu'il était employé communal.
Il arrive dans une mairie au fin fond des Cévennes, où bien évidemment on ne respecte pas à la lettre les directives du code du travail, et encore moins les directives de la sécurité au sens où l'inspection du travail pourrait l'entendre.
Maître Florence de Prateau, avocate de Valentin Marcon.
Et lui, avec cet esprit de Saint-Just, la loi est la loi, le règlement est le règlement, sur des bêtises, sur des futilités, pour nous, qui sont des futilités, mais pour lui, c'est pas des futilités, c'est fondamental. Et c'est là qu'on s'est rendu compte avec ma consoeur, qu'il a une vue de la société, son prisme n'est pas du tout le même que vous et moi. Un exemple, à un moment donné, on lui fait couper des haies avec une cisaille qui est pas aux normes, il va voir le maire, comme ça, et il lui dit « Monsieur, vous avez pas le droit de faire ça ». Donc le maire en question des Plantiers décide de ne pas renouveler le contrat. Et là, Valentin, ça fait un électrochoc dans sa tête. Il supporte pas. Pour lui, c'est une injustice criante. Comment ça, on ne renouvelle pas mon contrat ? Eh bien, je vais aller au prud'homme, comme un grand, et je vais gagner.
Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça se passait lorsque vous travaillez à la mairie ? Docteur, le maire se croyait au permis. Il faisait n'importe quoi. On travaillait avec du matériel qui n'était pas aux normes. C'était scandaleux. J'ai été au prud'homme. J'ai perdu. Pourtant, j'avais accumulé plein de preuves. Alors j'ai bien compris que c'était parce que le maire, il était de mèche avec la police et la justice. C'était un complot. J'ai écrit aux autorités, au procureur, à Emmanuel Macron. Et il se passait rien. Vous avez donc... un gros sentiment d'injustice. Bah oui, bien sûr. Mais j'avais peur aussi. Le maire, il m'a menacé. Il me disait que son frère était chasseur. Et puis, il était de mèche avec le gendarme auprès de qui j'ai déposé plainte.
Et comment vous gériez ça au quotidien ?
Ah ben chez moi, j'ai installé des caméras partout pour me sécuriser. Et j'avais même un drone. Et j'avais des armes pour me protéger. Et puis je portais toujours un gilet pare-balles. J'avais peur qu'on me fasse du mal. Le maire et le gendarme, depuis 3 ans, ils m'ont pourri la vie.
Il va rencontrer une petite période d'accalmie lorsqu'il va obtenir un nouveau poste, donc au sein de la série Tessonnière, sur la commune des Plantiers. Et donc, dans les premiers temps, fort de ce nouveau poste, il s'apaise. Mais rapidement, les difficultés relationnelles vont réapparaître, et cette fois-ci avec son nouveau patron, son nouvel employeur, donc, au sujet d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Et Monsieur Marcon se met à ruminer douloureusement des impressions de brimade ou de mépris, persuadé qu'au sein de la Syrie, on fait des allusions désobligeantes à son égard, qu'on parle de lui dans son dos, qu'on veut l'évincer pour faute grave. Et donc ce complot, ce qu'il pense être, ce complot qui vise sa dignité, va se renforcer et aboutir peu à peu à une certitude. Et donc, le jour des faits mis en cause, ce fameux 11 mai, il va se présenter comme d'habitude de ces dernières semaines, à son travail, armé, protégé d'un gilet pare-balles. Et donc, il va ressentir une atmosphère tendue. Et en plus, il aurait, je dis bien il aurait parce que c'est au conditionnel, surpris une conversation qui lui aurait fait penser qu'on voulait l'évincer de son travail pour faute grave. Et c'est là le point de bascule, que son patron va s'adresser directement à lui, mais pas seul, épaulé de cet employé. Et Monsieur Marcon donc est tourmenté, puisqu'il a passé une nouvelle nuit difficile, puisqu'il guettait sur son canapé, fusil à la main, les menaces potentielles. Son collègue de travail se rapproche de lui, et il va percevoir ces deux individus comme deux assaillants. Et c'est alors qu'il va sortir son arme et tirer brutalement. Et il va dire, et je trouve que cette phrase résume à merveille son état de pensée, « Sur le moment, j'avais la haine. Tout ce que j'avais accumulé depuis tout ce temps, je leur ai tiré dans la tête, j'ai tiré 4 fois. » Mais à distance de son acte, puisque lorsque je l'ai examiné, nous étions 3 mois et demi après son passage à l'acte, il va reconnaître d'une part qu'il n'avait aucun grief avec son collègue de travail, et d'autre part que les tensions avec son patron ne justifiaient en aucun cas cette justice expéditive. Mais là, encore une fois, il va avoir une phrase extrêmement révélatrice de son état de pensée, puisqu'il va dire « Le maire et mon patron avaient la même attitude ». Ils abusaient de leur position. Voilà la clé de la perception de M. Marcon.
Code B6. Expertise psychiatrique du docteur Laurent Laillé. On trouve chez Valentin Marcon une personnalité sensitive qui correspond à un caractère impressionnable par des expériences vécues, mais qui les élabore longuement en profondeur sans laisser paraître de signes extérieurs.
Et en fait, Monsieur Marcon, qui a tendance à intérioriser les conflits, et à ressasser douloureusement ses difficultés relationnelles, va petit à petit élaborer, par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées avec le maire, par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées avec son nouveau patron de la Syrie,
docteur Laurent Laillé, expert psychiatre,
un sentiment de honte et d'humiliation. Et c'est à partir de là qu'il pense évoluer dans un milieu hostile ou méprisant à son égard. Et son isolement social va aggraver cette impression de persécution. Donc il va alors ruminer douloureusement ses impressions de brimade et de mépris, et il va développer des idées de référence qui vont rapidement devenir des certitudes. Et c'est pour ça qu'il va progressivement équiper son habitation de caméras, puis équiper son véhicule de caméras, puis se mettre à porter un gilet pare-balles, puis se mettre à porter une arme. Et donc, il va se trouver, finalement, en permanence sur le qui-vive, parce qu'il craint d'être confronté à ses persécuteurs, donc le maire de la commune, le frère du maire de la commune, ou le gendarme qui était en charge de son dossier.
Et la vraie vérité, c'est que le jour où il bute son employeur et son collègue de travail...
Maître Florence de Prato, avocate de Valentin Marcon.
Si sur le trajet de retour de la Syrie à sa maison, il croise le maire ou le gendarme, moi j'aurais pas mis ma main au feu qu'il les tue pas également. Parce que là on est dans le paroxysme de son délire.
On peut émettre l'hypothèse d'une forme de continuum. C'est-à-dire que monsieur Marcon, il a été confronté dès son plus jeune âge à des expériences adverses. Dans son enfance, c'était les élèves qui étaient avec lui en classe, qui l'ont brimé, qui l'ont raillé. Et ensuite, professionnellement, il a aussi dû batailler pour essayer de se faire sa place. Donc oui, il y a une forme de continuum dans la trajectoire scolaire et professionnelle de Monsieur Marcon qui font qu'il est extrêmement sensible à toute forme de remarque extérieure et très rapidement, il peut se renfermer sur lui. Et c'est là, effectivement, qu'on mesure toutes les clés médico-légales du passage à l'acte de Monsieur Marcon.
En janvier 2024, 2 ans et demi après son crime, Valentin Marcon comparaît devant la cour d'assises du Gard pour les assassinats de son patron et de son collègue. Il a 32 ans et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Europe 1. C'est tout le village des Plantiers qui se tasse dans la salle d'assises de Nîmes pour le début du procès de Valentin Marcon. Un public empressé, venu voir de leurs propres yeux celui que la presse a surnommé le Rambo des Cévennes. Celui-là même qui s'est terré dans la forêt pendant 4 jours, traqué par plus de 300 gendarmes, épuisé. Il s'était finalement rendu aux forces de l'ordre.
Faites entrer l'accusé.
Tout le monde est très très étonné de voir cette bête de cirque, parce que ça faisait un peu bête de cirque hein, quand même. Et on a en permanence ce regard, les caméras, à chaque interruption, les journalistes veulent qu'on fasse des interviews. Donc il y avait un monde de fous, on voulait voir le tueur des Cévennes. Et en définitive, tout le monde s'est dit « Waouh, c'est lui le tueur des Cévennes ?» Personne s'attendait à voir cette morphologie en fait, personne. Et quand il s'est mis à parler, encore moins. Parce qu'il a une voix d'enfant, il a une voix d'ado qui n'a pas mué. Il fait de la peine quand on l'a vu dans ce box, on a presque envie de le prendre dans ses bras et de le protéger tellement qu'il fait fragile, il fait frêle, il est voilà, il fait pitié quoi.
C'est le même homme que je vois dans le box que celui que j'ai eu à examiner assez longuement dans le parloir dans lequel je l'ai rencontré.
Alain Penin, expert psychologue.
Il a toujours les mêmes petites lunettes rondes. Il est immobile. Il est taisant complètement. Il n'a pas la moindre réaction au plan émotionnel. Il ne dit pas un mot. Et donc, finalement, je ne le trouve absolument pas différent de celui que j'ai examiné en avril 2022. Il est attentif. Il est concentré. Il écoute ce qui se passe et il voit ce qui se déroule, il entend ce qu'on lui dit. Il ne prend pas la parole avant d'y être invité, donc il a une attitude d'un calme étonnant.
Il a de la culpabilité, parce qu'il a compris qu'il a détruit 3 familles, parce que même celui qui n'est pas mort, il a un impact psychologique, il aurait pu faire un arrêt cardiaque, voilà, il est traumatisé le garçon qui est survivant là. Ça, il en a conscience. C'est quelqu'un qui est tellement psychorigide. Il n'a pas trop d'humanité, quoi. Il est un peu lisse, vous voyez. Quand il parle, il n'y a pas d'affect. Il est robotisé quand il parle, il est robotisé. Il manque de « je m'exprime avec mes tripes ». Je sais même pas s'il a pleuré d'ailleurs.
Moi je pense que ce qui est important, c'est que les jurés puissent comprendre qu'il présente un trouble paranoïaque de la personnalité, qu'il présente un trouble qu'on appelle un trouble sensitif, que j'essaye de manière un petit peu pédagogique de leur expliquer ce qu'il faut entendre par là, à savoir effectivement ces problèmes de fausseté du jugement, ces problèmes de conviction qu'il avait établi et cette rancune tenace qu'il avait accumulée et qui s'est libérée finalement pour un motif futile. Si les jurés ont compris ça, je pense que j'ai fait mon travail correctement.
Code B10, expertise psychologique d'Alain Penin. On peut évoquer une dangerosité criminologique forte résultant de la combinaison entre les éléments de personnalité paranoïaque sensitive et le goût pour les armes à feu et le tir de précision. Valentin Marcon doit donc être interdit de tout type de pratique avec armes et bénéficier d'un suivi psychologique et psychiatrique qui devrait débuter en détention.
Il a toujours reconnu les faits de la garde à vue jusqu'à la cour d'assises. Il n'a jamais changé de version. C'est pas quelqu'un qui ment, Valentin. C'est pas quelqu'un qui va vous mentir. Mais encore une fois, sa perception de la réalité étant biaisée, il est dans sa propre réalité, dans sa vérité à lui, dans sa façon de voir les choses. Son père, un jour, on préparait la plaidoirie, etc. Et il me dit, viens, je vais te faire voir sa chambre d'adolescent, qui était restée figée de l'adolescence, quoi. Et là, je vois une espèce de carapace, vous savez, de héros de Marvel, là. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Ben, il me dit, c'est une carapace qu'a construit Valentin lorsqu'il était adolescent. Et moi, la carapace, ça m'a fait penser à la carapace de protection contre les agressions qu'il a subies quand il était gamin, etc. Et en fait, il s'était construit, là, comme ça, avec ses petites mains, ses petits montages, sa propre protection. Un bouclier contre l'autre, contre les agressions de l'extérieur et de la société. C'est très bizarre. Il a émis ça sur une espèce de mannequin posé, là, comme ça, dans sa chambre.
Maître de Prato, vous avez la parole pour la défense de Valentin Marcon.
J'ai commencé ma plaidoirie à critiquer les articles de presse qu'il avait eus lorsqu'on le définissait comme un grand violent, un mec hyper dangereux, le Rambo des Cévennes, etc. En faisant un parallèle avec le physique et la personne qu'ils avaient toute chétive dans le box. Et ensuite, j'ai fait voir 3 photos où il est le papa aimant avec sa petite fille dans les bras, en train de donner le biberon parce qu'elle était petite. Hein. Aujourd'hui, elle a 4 ans, elle avait 2 ans hein, quand il est passé à l'acte. C'est une pression énorme parce qu'on a déjà l'enjeu du dossier, on en court perpétuité. Et quand on a fini de plaider, qu'on était épuisé parce qu'on avait quand même perpétuité sur la tête, dernière phrase de parole donnée à l'accusé, le président de la cour d'assises lui dit « Monsieur Marcon, qu'est-ce que vous avez à rajouter ?» Il dit « C'est très grave ce que j'ai fait, si vous voulez me mettre perpétuité, mettez-les-moi. » Alors que nous, on plaidait pour pas qu'il ait perpétuité, voyez. Vous voyez, ça c'est Valentin Marcon. Parce que la loi, c'est la loi. La loi, elle dit que double assassinat, c'est perpétuité, donc il faut que j'ai perpétuité. C'est cohérent. C'est une forme de cohérence.
Valentin Marcon est condamné pour meurtre, au pluriel, à 30 ans de prison, assorti de 15 années de sûreté. La cour d'assises n'a pas retenu la préméditation. Il accepte le verdict et ne fait pas appel. Ainsi se termine ce numéro d'On de la traconte Côte B, une affaire criminelle vue avec des lunettes psy. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête aujourd'hui de Marion Douzé, réalisation de Guillaume Vassaud.
Retrouvez On de la traconte Côte B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.